Bonjour à toutes et à tous, merci pour votre fidélité à Storia Voce et bienvenue pour cette nouvelle édition des Grands Entretiens. En 2008, le Grand Palais, situé au cœur de Paris, près du pont Alexandre III, avait organisé une exposition consacrée à Marie-Antoinette, reine de France, née en novembre 1755 dans les ors de la Grande Maison d'Autriche et morte sur l'échafaud le 16 octobre 1793 sur la place de la Révolution, rebaptisée aujourd'hui place de la Concorde. L'exposition retraçait cette vie faite de gloire, d'espoir, mais aussi de désillusions et finalement de larmes. À la fin de son parcours, le visiteur entrait dans un long couloir aux murs noirs et sur ces murs, des caricatures de la reine et du roi, de leur famille, puis des images du temple, sa prison, une chaise, une coiffeuse, un serre-tête, sa dernière lettre et la fameuse esquisse de David représentant la reine assise dans la charrette la menant à l'échafaud. Sur ce dessin, elle paraît avoir 60 ans, elle n'en a même pas 40. Au fur et à mesure, le couloir noir de l'exposition se rétrécissait, il s'assombrissait pour ne laisser que cette dernière image avant la mort d'une reine. Dans son adaptation d'Antigone, Jean Anouilh dit de son héroïne « La petite maigre qui est assise là-bas, elle aurait bien aimé vivre, mais il n'y a rien à faire. Elle s'appelle Antigone et il va falloir qu'elle joue son rôle jusqu'au bout. » Comme l'écrit Emmanuel de Varesquiel, il n'y a dans le procès, puis l'exécution publique de la reine Marie-Antoinette, aucune surprise, aucun rebondissement, aucun coup de théâtre. Une histoire écrite d'avance, cela s'appelle une tragédie. Storia Voce vous propose aujourd'hui de revivre ce moment de l'histoire de France, ce moment où la reine Marie-Antoinette, après avoir été tant aimée, devint l'incarnation d'un mal absolu, la victime d'une passion mécanique, d'une passion implacable, celle de la Révolution française. Emmanuel de Varesquiel, bonjour.
Bonjour.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Vous êtes historien, vous êtes chercheur à l'école pratique des hautes études. Vous avez écrit de nombreux ouvrages. Je ne citerai que le Talleyrand et le Fouché, qui sont des œuvres magistrales, donc parues respectivement, rééditées chez Texto, je crois, le Talleyrand et le Fouché. Il s'agissait d'une coédition Talandier et Fayard. Et alors, vous venez d'écrire un nouvel ouvrage qui s'appelle « Juger la reine ». Et en fait, j'ai rarement ressenti une telle chose dans un livre d'histoire. Il y a une réelle émotion dans ce livre. Et on peut dire que ce livre, vous le commencez par un silence. C'est une visite que vous avez faite à la conciergerie. C'est un moment qui a été une sorte de moment fondateur où vous avez finalement décidé d'écrire cet ouvrage.
Oui, à la conciergerie, aussi dans la première chambre du tribunal de grande instance de Paris. Ça a été le déclencheur. Mais je suis arrivé, non pas à Marie-Antoinette, mais à son procès et à la terreur. En traversant la Révolution, si j'ose dire, sur le dos de Joseph Fouché, dont j'ai été le biographe il y a deux ans, un peu plus de deux ans maintenant. Et vous savez, je suis un historien des monarchies constitutionnelles, je suis un historien du 19e siècle, et la prégnance de la Révolution au 19e siècle dans les représentations, son côté incroyablement clivant, ce qu'on appelait à l'époque l'ancienne France et la nouvelle France, cette opposition très tranchée entre ces deux mondes, un monde hostile à la Révolution et qui en a été en partie la victime, et un monde qui en... Et d'ailleurs, ce monde-là est aussi divisé, qui en défend les principes, m'a donné envie, tel Rimbaud, si j'ose dire, de remonter le cours du fleuve et d'aller y voir de plus près. Et ça a été ma première décision de prendre Fouché comme protagoniste principal. Et d'en écrire la biographie. Et cette traversée que j'ai faite avec lui de la Révolution m'a donné envie d'y revenir une nouvelle fois. Mais vous savez, souvent, je ne suis pas forcément un biographe de profession. Il m'est arrivé de commettre des biographies, mais je suis essentiellement un historien, je dirais, de fond, qui pousse son wagonnet dans la mine dans lequel se trouve des archives et des sources. Et donc, on éprouve souvent le besoin de changer de position, de changer d'angle de tir par rapport à son sujet. Je sortais d'une écriture biographique, qui est par ailleurs une écriture compliquée, qui apparaît au public comme l'écriture la plus simple de toutes les écritures de l'histoire, mais qui est en fait probablement la plus difficile, parce qu'elle tient du paradoxe et de la quadrature du cercle, à la fois du travail... je dirais entre guillemets scientifique de l'historien et en même temps d'un travail qui relève de la littérature et de la subjectivité. Et j'avais envie de revenir à la Révolution sous un autre angle et par le truchement d'une autre écriture, en essayant et en me risquant à quelque chose que je n'avais jamais fait, qui était la conduite d'un récit historique. Mais là encore, avec les difficultés que ça représente du point de vue de la méthodologie et de la construction, je ne vous parle même pas encore des sources là, mais je vous parle simplement de ce que peut représenter de difficulté le principe même du récit. C'est ce que Furet d'ailleurs appelait dans un article qu'il a publié dans les années 80. Il a intitulé cet article « Histoire, problème et histoire, récit ». Comment introduire de la problématique dans le récit historique? Et au fond, conduire un récit, c'est un peu comme zoomer, c'est un peu comme conduire une caméra en mouvement et prendre la décision et la difficulté des choix est importante de ce point de vue-là. Prendre la décision d'un arrêt sur image, dans cet arrêt sur image, d'introduire de l'analyse. Comme si on faisait vivre... ces personnages, entre guillemets, les protagonistes du sujet qu'on a choisi sur la scène, puisque vous l'avez dit, ce procès de Marie-Antoinette est une tragédie, et que l'on décidait à un moment donné de commenter leur action. Comme si on était, puisqu'on parle de tragédie encore une fois, comme si on était à la fois du côté des acteurs, du côté des personnages, mais en même temps le cœur antique qui commente l'action des personnages. Et ces arrêts sur image... c'est l'analyse et c'est le commentaire du récit. Je pense qu'un récit historique doit être un récit intelligent, dans le sens intelligence du récit, et que donc s'il n'est pas commenté, s'il n'est pas analysé à certains moments, la difficulté de ce dispositif, c'est de faire en sorte de ne pas arrêter, d'arrêter d'abord le récit au bon moment, et de ne pas perdre le fil conducteur du récit, de ne pas se perdre dans l'analyse et perdre le lecteur qui ne trouve plus le fil du récit que l'on conduit. Mmh. Voilà. Mmh. Donc c'est une question de dosage, c'est une question de moment, c'est une question de choix, et c'est un mode d'écriture qui est extrêmement difficile. Et d'ailleurs, peu d'historiens s'y risquent, sinon peut-être des hagiographes ou des amateurs d'histoire, mais j'entends peu d'historiens s'y risquent dans la mesure même où, par ailleurs, ils ont posé les fondations de leur récit. Et les fondations du récit, qu'est-ce que c'est? Ce sont les parties immergées de l'iceberg, les parties qu'on ne voit pas. C'est le travail sur les sources, c'est l'analyse critique des sources, c'est le travail sur les sources dans le temps de l'événement sur lequel on travaille, mais aussi dans le temps de l'histoire et dans le temps des rapports de l'histoire à la mémoire. Car pour parler de ce procès de Marie-Antoinette, mais je vous expliquerai pourquoi je l'ai choisi tout à l'heure, tout est déformation sur le moment, dans le temps du procès, mais évidemment dans la mémoire du procès. On a fait de ce procès à la fois le pire et le meilleur. On a fait de l'accusé, Marie-Antoinette, à la fois une coupable absolue jusqu'au XXe siècle et jusqu'à nos jours, et en même temps une sainte et martyre qui a vécu cette espèce de chemin de croix quasi christique qu'a connu le Christ en son temps. Et donc, à travers les sources et à travers le travail sur les sources, à travers la confrontation des sources, à commencer par des sources inédites, il s'agit au fond de faire en bon mécanicien ce que l'historien se doit de faire, de démonter et de remonter les représentations, la gangue des représentations qui recouvre un moment de l'histoire, un instant présent de l'histoire. C'est un peu comme si vous jetiez une pierre dans l'eau. On a un impact qui est très précis à l'endroit de la projection de la pierre sur la surface de l'eau. Et puis vous avez des ondes concentriques qui s'étagent au fur et à mesure, qui sont de plus en plus floues, de moins en moins visibles. Mais c'est ça le rapport de l'histoire à la mémoire. La mémoire, elle évolue dans le temps de sa fabrication, et donc elle se tord, elle se déforme, elle se reforme au fur et à mesure des moments successifs où elle se développe. Et cette mémoire du procès, et surtout cette mémoire de Marie-Antoinette, et la mémoire aussi de ses juges, est extrêmement lourde. Donc encore fallait-il la traverser pour comprendre ce procès. Et puis, si je suis arrivé à cet événement, donc avec ce choix de, comme je l'ai dit, d'écrire un récit historique, si je suis arrivé à cet événement, c'est parce que j'ai cru trouver, dès le départ, une conjonction de coordination parfaite entre ce que je voulais faire, c'est-à-dire un événement qui me donne à comprendre la terreur, mieux encore que la traversée de la terreur que j'avais fait aux côtés de Fouché, mais un événement coordonné à un lieu. Et il se trouve que je cherchais ce lieu et cet événement, car s'agissant du récit de la terreur et de l'explication de la terreur, de la dynamique révolutionnaire, on pouvait en trouver de multiples. J'aurais pu retourner à Lyon, à la plaine des Brotteaux, avec Fouché, à l'époque des mitraillades de la plaine des Brotteaux en décembre 1793. J'aurais pu aller à Nantes, sur les bords de la Loire, avec Carrier. J'aurais pu entrer à la Convention nationale, dans la salle du manège. J'aurais pu entrer au comité de salut public. J'aurais pu entrer au club des Jacobins, dans n'importe quel comité de surveillance ou n'importe quelle section parisienne ou à la Commune de Paris. Non, j'ai choisi le procès. Pourquoi ? Parce que au moment où je cherchais ce lieu et cet événement, j'avais été amené à réfléchir à la réorganisation du musée, de la mise en scène du musée de la Conciergerie, à la demande du Centre des Monuments Nationaux. C'était il y a 3 ans à peu près. Et ce qui m'a conduit à me promener, comme nous l'avons dit tout à l'heure, dans les cachots de la Conciergerie, ce qui était les cachots de la Conciergerie, et au premier étage, à l'étage de la salle des pas perdus et du palais de justice actuel, avec cette continuité extraordinaire de la justice, de la monarchie, puis de la République, dans ces mêmes lieux. La première chambre du tribunal de grande instance, c'était la grande chambre du Parlement de Paris, là où se tenaient les lits de justice. Ça a été la cour de cassation, ça a été l'endroit où s'est tenu le tribunal extraordinaire, rebaptisé très rapidement tribunal révolutionnaire, qui va juger Marie-Antoinette. Et c'est là que se déroulent tous les procès d'exception, toute la justice d'exception, que ce soit... non pas l'affaire Dreyfus, mais que ce soit la justice de Vichy, et puis celle de l'épuration, et puis celle du putsch d'Alger au début des années 60. Donc il y a une continuité très poignante, alors même que les lieux, le décor a changé à la suite de l'incendie de la Commune de Paris en 1871, mais on sent cette continuité quand on est là seul dans cette première chambre du tribunal de grande instance, qui était la salle de la liberté du tribunal révolutionnaire, qui est la pièce dans laquelle entre Marie-Antoinette le 14 octobre 1793 à 8h du matin, dans laquelle elle va rester 3 jours et je dirais quasiment 2 nuits jusqu'à sa condamnation à mort le 16 octobre à 4h du matin. Donc cette conjonction de coordination qui a été la mienne entre cette volonté de comprendre la terreur et ces promenades qui étaient les miennes à la Conciergerie, avec ce sentiment que j'ai eu notamment en me promenant dans ce qui est montré comme le cachot de la reine, de l'enfermement de cette femme qui n'a pas seulement été l'enfermement de ses prisons mais l'enfermement de toute sa vie, m'a donné envie. Donc, par le biais de la Révolution, m'a donné envie de travailler sur ce procès. Et là, à ma grande stupéfaction, je me suis rendu compte que les rares personnes qui avaient travaillé sur le procès de Marie-Antoinette étaient les biographes de Marie-Antoinette et n'y avaient accordé que peu d'attention, à commencer par celle des sources, en se contentant de reprendre les sources imprimées contemporaines du procès, et notamment les procès-verbaux qui avaient été imprimés par le Moniteur universel. Mais il ne faut pas se faire d'illusions, le Moniteur universel sous la Terreur, en octobre 1993, c'est l'équivalent de la Pravda, autant à l'époque de l'Union soviétique, dans les années 1920. Les procès-verbaux sont contrôlés par les comités, à commencer par le Comité de Sûreté Générale, et donc j'ai été rapidement peu satisfait de ce que j'avais entre les mains, d'où Vous savez, quand on est historien, on a un côté de Nestor Burma qui sommeille toujours en soi.
Historien en quête.
On part à la chasse au trésor. Oui. Et donc, ma volonté d'aller voir dans les archives ce que je pouvais y trouver. J'ai été à Pierrefitte. Les archives nationales sont maintenant dans la région parisienne à Pierrefitte. Et quand j'ai sorti le dossier dans la série W du procès de Marie-Antoinette, j'ai constaté que ce dossier était singulièrement vide. Et il ne s'y trouvait qu'une petite note manuscrite sur laquelle était écrit « Les papiers du procès de Marie-Antoinette ont été transférés à l'armoire de fer ». Je pensais au départ que cette armoire de fer était l'armoire des Tuileries, qu'on avait découvert aux Tuileries après la prise des Tuileries le 10 août 1792, dans lequel se trouvait un certain nombre de correspondances, notamment celle de Mirabeau. En réalité, c'est une autre armoire de fer qui a été commandée par l'Assemblée nationale en 1790 pour y déposer ce que l'Assemblée nationale considérait son bien le plus précieux, c'est-à-dire la première constitution française de 1791, et puis un certain nombre d'autres choses. Cette armoire de fer a survécu à la Révolution, et quand Michelet organise un grandiose projet de mise en scène de la mémoire écrite de la nation, ce qui donnera lieu à la construction du grand dépôt des archives nationales qui existe toujours aujourd'hui, dont on voit le mur aveugle le long de la rue des Quatre Fils dans le Marais, il imagine de mettre au centre de ce grand dépôt cette armoire de fer, qui est très grande, qui fait 3 mètres de haut, et dont on accède à travers 3 doubles portes. C'est tout un rite d'arriver à l'armoire de fer. Et de mettre dans cette armoire le plus précieux de la mémoire écrite de la monarchie et de la nation, c'est à toutes les grandes chartes du royaume, toutes les constitutions françaises. Le dernier document qui s'y trouve, c'est la loi Badinter de 1981. Et je pense que cette petite note que j'avais trouvée à Pierrefitte avait été rédigée par un archiviste dans les années 1880-90, qui a dû penser qu'étant donné que les pièces du procès de Louis XVI se trouvaient déjà dans cette armoire de fer,
il fallait elle-même
les mettre, de rassembler les pièces du procès de la femme et du mari, si j'ose dire. C'est comme ça que les pièces du procès de la reine se retrouvent là. Mmh. Et qu'est-ce que je découvre? Je découvre un certain nombre de choses, beaucoup de correspondances inédites, mais surtout ce que j'appelle des notes d'audience, c'est-à-dire dans une écriture scénographiée quasiment, des notes prises par un greffier du tribunal révolutionnaire, resté anonyme, et qui, dans la rapidité des questions et des réponses, des questions qui sont posées par le président du tribunal Hermann et des réponses qui sont données par Marie-Antoinette ou par les témoins, les 41 témoins qui défilent à la barre du tribunal, notent l'essentiel de ce qui s'est dit au cours de ces deux journées et demie du procès. Et quand on compare ces notes d'audience aux procès-verbaux qui ont été publiés par le Moniteur ou qui sont restitués par un certain nombre de journaux jacobins, comme le journal de la Montagne ou le Rougif ou quelques autres, on s'aperçoit qu'on a affaire à un procès très différent. Je vais vous prendre un seul exemple que je cite souvent, mais c'est le plus probant. L'un des témoins qui se produit à la barre du tribunal est un ancien ministre de la guerre de Louis XVI, qui s'appelle le comte de la Tour du Pin. Et dans le Moniteur, on a un certain nombre de questions d'Hermann et de réponses de la Tour du Pin. Tous ces témoins sont des témoins d'office, hein, et la plupart d'entre eux vont être guillotinés. D'ailleurs, on les fait comparaître devant Marie-Antoinette pour les faire avouer leur propre crime aussi, enfin ce que la Révolution considère comme étant leur crime. Donc la Tour du Pin sera guillotinée en avril 1794. Mais on le fait répondre à Hermann dans le Moniteur universel. Quand je lis les notes d'audience que je trouve dans l'armoire de fer, je trouve deux lignes. La Tour du Pin, deux points. La Tour du Pin n'a rien dit. Donc on est là dans ce que je vous appelais, ce que je vous parlais, ce que j'appelais les déformations de ce procès, qui sont les déformations de l'histoire. La Tour du Pin, probablement, a-t-il voulu se taire et ne pas entrer dans ce qu'il considérait être une mascarade de procès politique organisé et joué d'avance.
Alors donc, vous avez fait un énorme travail d'archives qui est extrêmement important. Il y a cette unité de temps et de lieu qui, j'allais dire, éclaire cette tragédie que vous divisez en actes, d'ailleurs, puisque vos chapitres portent les noms d'actes premiers, en prison, actes 2, l'étrangère, etc.
Qui ne correspondent pas forcément au temps du procès, d'ailleurs.
Qui ne correspondent pas au temps du procès. Quelle est l'utilité d'un tel procès pour les révolutionnaires?
C'est précisément là où la mise en rapport du procès au contexte révolutionnaire dans lequel il s'inscrit prend toute sa place et fait de ce procès ce que je considère être un élément et un moment clé du basculement de la Révolution dans la Terreur. Car au moment où se tient ce procès de Marie-Antoinette, qui par ailleurs était enfermée à la Tour du Temple depuis août 92, qui légalement, d'un point de vue juridique, n'a pas de pouvoir, puisqu'elle n'est pas couronnée à Reims comme son mari Louis XVI, en 1775, puisque l'Assemblée nationale lui enlève tout droit à la régence dès l'année 1790, et qui pourtant va être accusé, va comparaître
et, de
va,
tous
être,
les mots.
Et va être condamné à mort. Pourquoi ? Parce que dans les premiers mois de 1793, la Révolution est dans un certain nombre d'impasses. C'est une jeune république qui a été proclamée quelques mois auparavant, en septembre 1792, qui est fragile et qui est confrontée à un certain nombre d'adversaires, on est en pleine guerre civile, qui sont à la fois extérieurs et intérieurs. À l'extérieur, la République est confrontée à une coalition des rois européens, emmenée par l'Autriche, la Prusse et l'Angleterre, mais à laquelle se rallie l'Espagne, et puis bientôt la Suède, et bientôt la Russie. Et elle est en partie, son territoire est en partie envahi. La Prusse et l'Autriche tiennent Condé et Valenciennes, Dunkerque, le siège est mis par les Anglais du duc d'York devant Dunkerque, Toulon au sud est pris par une flotte combinée anglo-espagnole, et à l'intérieur, la République est en pleine insurrection, l'insurrection contre-révolutionnaire. C'est la Vendée dans l'ouest, puis bientôt la Bretagne, puis la Chouannerie. C'est un certain nombre de villes du Midi qui se réclament d'un royalisme plus ou moins constitutionnel. Ce sont les insurrections girondines aussi, à la suite de cette défaite des Girondins à la Convention nationale le 2 juin 1793, à la suite de la victoire des Montagnards. Lyon est en insurrection, vous savez que Lyon sera réprimé, d'où Fouché, d'où la mission de Fouché en novembre 1793. Et donc la République est dans une impasse politique et une impasse militaire. Et à chaque fois que la République s'est retrouvée dans une impasse, c'est pas seulement le cas de son histoire révolutionnaire, mais c'est le cas aussi en 1815 après Waterloo, en 1940, au moment de la défaite militaire de 40. À chaque fois qu'elle s'est retrouvée dans une impasse, elle a essayé de trouver un coupable ou un bouc émissaire.
Vous reprenez d'ailleurs la thèse de René Girard dans La violence et le sacré.
Exactement. Mmh. Et au nom de l'indivisibilité et de l'unité de la nation, ce coupable, c'est un traître et un comploteur. Par définition, on désigne l'ennemi qui est aussi l'étranger et qui ne peut être, à cause de cette indivisibilité de la nation, qui ne peut être un opposant. L'opposant devient un ennemi et l'ennemi doit être éliminé. Si la République va mal, c'est qu'elle a affaire à des forces occultes terribles qui veulent la détruire. En son sein, en son cœur, mais également à l'extérieur, tout ça étant lié. Hein, c'est Pitt et Cobourg, c'est la Vendée, Pitt et Cobourg de 93, de 1793 et 1794. Ce complot, réel ou imaginé, réel ou fantasmé, devient tellement important, cette idée du complot devient tellement important, qu'il finit par être le combustible même du processus révolutionnaire. La révolution se construit, se légitime sur la désignation
de
l'étranger, de l'ennemi et du traître. Mmh. Et quel meilleur, il n'y a pas de meilleur bouc émissaire susceptible d'incarner cette trahison que cette Marie-Antoinette, qui par ailleurs, si j'ose dire, bénéficie de tous les fantasmes du fait qu'elle a été reine, qu'elle est femme et qu'elle est mère. Elle sera jugée pour ces trois raisons par le tribunal révolutionnaire en octobre. Et donc, elle est naturellement indiquée pour être, entre guillemets, la victime expiatoire et l'incarnation même de cette trahison et de ce complot organisé, ourdi, contre cette jeune république en train de se former et à peine née. Mmh. Donc, l'explication politique et les raisons politiques de l'existence même de ce procès de Marie-Antoinette, qui logiquement n'aurait pas dû être jugé, qui par ailleurs est abandonnée par les puissances européennes, à commencer par l'Autriche et Vienne, qui considèrent au nom de la Realpolitik que des gains de territoire, qui est le victoire militaire que l'Autriche est en train d'emporter à ce moment-là de la Révolution, valent infiniment mieux qu'un échange au nom d'un quelconque
solidarité monarchique,
oui, ou d'un quelconque armistice dont l'Autriche ne veut pas, et c'est à la tête de l'Autriche, c'est le propre neveu de Marie-Antoinette qui agit ainsi, François II d'Autriche, et donc Marie-Antoinette est toute désignée pour encore une fois incarner ce complot désigné par la République comme étant une explication ou un prétexte à ces difficultés et à ses impasses.
Alors, jugée parce qu'elle est reine, parce qu'elle est femme, parce qu'elle est mère, je voudrais justement revenir. Nous avons bien parlé de son statut de reine. J'ai découvert une chose que je ne connaissais absolument pas sur la Révolution, qui est un phénomène à la fois politique et sociologique, c'est le rejet de la figure féminine. C'est-à-dire qu'on reproche en quelque sorte, ce qui n'était pas le cas, ce qui était un mensonge, l'implication de la reine Marie-Antoinette dans la politique. Et vous montrez dans votre livre que, au fond, la Révolution française n'est absolument pas féministe.
Oui, les grands mémorialistes du XVIIIe siècle, Talleyrand, le prince de Ligne, Elisabeth Vigée-Lebrun, qui a été la portraitiste de Marie-Antoinette, le disent tous dans leurs mémoires. Elisabeth Vigée le dit à propos des années 1780, les femmes régnaient alors, la Révolution les a détrônées. Tous insistent sur ce pouvoir d'influence, non seulement sur le goût, sur les mœurs, sur les modes, mais aussi ce pouvoir d'influence beaucoup plus profond, social et politique, des femmes, alors des femmes de l'élite, bien sûr, sur l'organisation des pouvoirs monarchiques et sur l'organisation sociale d'une façon générale. La seconde moitié du XVIIIe siècle, c'est le règne des femmes, et toute la Révolution s'est inscrite en réaction à ce pouvoir des femmes que les révolutionnaires considéraient forcément comme maléfique, secret, occulte. La Révolution, c'est la revanche des hommes. C'est d'abord la Révolution, ce sont des assemblées d'hommes. C'est la revanche des hommes sur le pouvoir des femmes. Il y a une forme de misogynie qu'on imagine, qu'on peut à peine imaginer aujourd'hui, on mettra 200 ans à s'en remettre, si j'ose dire, qui est propre à la Révolution. Dans les cahiers de doléances des États généraux de 1789, ce qui préoccupe, l'une des préoccupations du tiers, qui n'est jamais assez dite et assez développée par les historiens, c'est la fermeture, c'est l'enfermement des prostituées. Il y a dans la tête des révolutionnaires, dans l'imaginaire révolutionnaire, une conjonction de coordination entre les maléfices politiques des femmes et leur débordement sexuel et leur dangerosité de mœurs et sexuelles. Et Marie-Antoinette incarne tout ça, parce que depuis des années et des années, elle est considérée comme la grande Messaline, doublée d'une tribane. Du fait de ses comportements, de cette invention d'une vie privée qui n'a jamais existé à la cour de Versailles, de cette thébaïde du petit Trianon qui lui est donné par son mari Louis XVI dès 1775, de cet enfermement dans une société qui est dite la société de la reine ou une coterie, quand on la considérait de façon négative, Marie-Antoinette va se prêter très rapidement à tous ces fantasmes-là, et les pamphlets qui émanent d'abord de la cour et qui ensuite vont être relayés à Paris par les folliculaires et les pamphlétaires issus du tiers-état vont très vite, avant même l'explosion de la Révolution 1789, en faire une figure, non seulement une figure de traîtresse, mais une figure de débauchée, la pute couronnée, hein, la salope d'Autriche, de débauchée absolue. Et j'insiste sur le fait que les révolutionnaires considèrent qu'il existe un lien entre tout ça, hein, entre l'influence occulte, l'influence secrète auprès des hommes et du pouvoir politique des hommes et les débordements sexuels. Et donc Marie-Antoinette va incarner tout ce que la Révolution déteste chez la femme. Et d'ailleurs, quelques jours après le procès de Marie-Antoinette, la Convention décrète la fermeture des clubs féminins. Et les procès de femmes sous la Révolution, ce n'est pas seulement le procès de Marie-Antoinette. C'est le procès de Charlotte Corday qui assassine Marat dans sa baignoire en juillet 1793. Ce sera le procès de Manon Roland, de Madame Roland, quelques semaines après Marie-Antoinette, et puis le procès d'Olympe de Gouges et de beaucoup d'autres. Et donc Marie-Antoinette est jugée non seulement comme reine, mais également comme femme, en effet.
Alors, elle est jugée aussi, vous l'avez dit, pour mère, et c'est un moment extrêmement... enfin, où on ressent cette émotion. Je parlais au début de cette, émission de cette émotion qui existait dans votre livre face à cette tragédie. Et c'est le moment où, j'allais dire, la reine a la dignité la plus haute et la conscience révolutionnaire, elle, est au niveau le plus bas. C'est le moment où apparaît le dauphin.
Oui. En réalité, la révolution, c'est la mise en place, la fabrication d'une administration pléthorique, mais parce que pléthorique, extrêmement désorganisée. Et on cherche en réalité les preuves. Vous savez, ce qui est intéressant dans un procès, ce ne sont pas les pauvres preuves, c'est la patte humaine, c'est la psychologie des uns et des autres. Et je me suis beaucoup attaché à la fois à la psychologie de Marie-Antoinette accusée, et aussi à la psychologie de ses juges, des jurés, de l'accusateur public Fouquier-Tinville. Mais néanmoins, on cherche les preuves, et on ne les a pas, les preuves de ces chefs d'accusation portés contre elle, complot et trahison. Et faute de preuves, on va trouver et on va lui porter cette ultime accusation portée contre une mère, et pas seulement contre une reine et une femme, qui est celle portée par Hébert, le rédacteur d'un des journaux les plus violents de la Révolution, qui s'appelle Le Père Duchesne, et qui injurie Marie-Antoinette depuis des mois et des mois, cette accusation d'inceste qui repose en fait sur des aveux, on manipule le fils contre la mère, sur des aveux extorqués au jeune Louis XVII, si l'on se place du point de vue des royalistes, car Louis XVI est mort, le roi est mort, vive le roi, le mort saisit le vif, et pour les royalistes, Louis XVII, est le jeune dauphin enfermé au temple, qui a 8 ans, est devenu Louis XVII. Ce jeune enfant est très encombrant pour les révolutionnaires, qui ne peuvent décemment l'exécuter comme ils vont exécuter sa mère, et qui vont trouver, au fond, une autre forme de régicide. On a assisté à un régicide classique avec la mort de Louis XVI, le 21 janvier 1793, on va inventer, à l'occasion du procès de Marie-Antoinette et à travers cette accusation d'inceste, ce que j'appellerais un régicide moral. C'est-à-dire qu'on va avilir la mère à travers le fils et le fils à travers la mère pour des raisons qui sont très politiques. C'est-à-dire qu'on va essayer de couper le cordon ombilical du principe de l'hérédité monarchique en avilissant le fils et en lui extorquant ses aveux de coucherie avec sa mère et aussi avec sa tante, Madame Élisabeth. Tout ce procès, jusqu'aux accusations qui sont portées d'inceste, qui sont portées à Marie-Antoinette, et comme vous l'aurez compris, un procès politique réinventé ou déformé par ce système des fantasmes et par ces enfermements qui sont à la fois ceux des accusateurs, enfermements dans les principes de la Révolution et dans les fantasmes révolutionnaires, mais enfermement qui est aussi celui de l'accusé, de Marie-Antoinette. On a là, face à face, côte à côte, face à face beaucoup plus que côte à côte, deux mondes. Le monde de la monarchie, incarné par Marie-Antoinette, qui porte sur ses épaules beaucoup plus que son mari au cours de son procès les droits historiques et héréditaires des Bourbons, et qui est une sorte de passionnariat du droit divin, si j'ose dire, dans les réponses qu'elle fait, extrêmement franches. Hein, c'est vraiment une image en noir et blanc, ce procès, dans les réponses qu'elle fait au président Herman et aux jurés. Et puis de l'autre côté, la Révolution, c'est le procès de l'égalité contre les privilèges, c'est le procès des hommes fait à une femme, c'est le procès de la patrie fait à une étrangère, l'autrichienne, hein, celle qui incarne ce renversement des alliances, cette nouvelle alliance de la monarchie française avec l'Autriche, qui n'a jamais été ni approuvée, ni consentie, d'abord par les élites françaises, puis par la Révolution elle-même. Et donc, on a là, si vous voulez, en le racontant, en l'analysant de près, on a là toutes les dimensions possibles et imaginables, à la fois politiques, sociales et humaines, qui peuvent donner à comprendre ce qu'a été ce dynamisme révolutionnaire, cette mécanique révolutionnaire qui entraîne la révolution dans des impasses qui sont celles de la violence et de la haine, car ce procès est aussi le procès de toutes les haines. Haine des révolutionnaires pour Marie-Antoinette, mais également mépris de Marie-Antoinette pour ses accusateurs, pour ses bourreaux. Je pense d'ailleurs, étant donné l'attitude qui a été la sienne, et c'est ce qui d'ailleurs m'a le plus surpris à la lecture des procès-verbaux, cette attitude non seulement d'assez grand courage et de grande dignité, portée peut-être par l'orgueil et par le souvenir de ses origines, mais également une intelligence politique dans les réponses qu'elle formule aux questions qui lui sont posées par les juges, qui m'a donné envie d'aller y voir de plus près du côté de la construction psychologique de cette femme.
Elle essaie de se sauver malgré tout.
Je pense qu'elle est, au cours de son procès, jusqu'au dernier moment, jusqu'au prononcé du verdict, le 16 octobre à 4h du matin, du côté de la vie, elle pense qu'elle va passer à travers les gouttes de l'orage et survivre à son procès. Elle méprise aussi, comme je l'ai dit, ses accusateurs. Je pense qu'on manifeste et on est probablement capable de montrer un plus grand courage devant la mort quand on méprise ceux qui vont vous la donner. Ça, je suis persuadé de ça. Et puis il y a cet orgueil qui est considéré par ses partisans comme l'élément même de la dignité monarchique, mais qui va être considéré par les révolutionnaires comme insupportable, comme une espèce de fierté. On parle beaucoup de fierté dans les comptes rendus révolutionnaires qu'on a du procès, cette fierté méprisable.
Ça exaspère
les révolutionnaires. Ce comportement de la reine, moi j'ai essayé de l'expliquer, car vous aurez compris que dans ce récit il y a de la pâte humaine, il y a de la chair et du sang, c'est peut-être de là que vient cette émotion que vous avez éprouvée, mais tout en gardant cette distance. Je pense que moins l'historien fait de la morale, moins il émet des jugements de valeur sur le fait qu'il existerait des bons ou des méchants, et plus il est capable d'instiller de l'émotion dans son récit. Je pense que l'émotion précisément est donnée par la distance de l'historien à son sujet, je crois. Je crois que c'est un principe paradoxal, mais un véritable principe.
Ah oui, je dis aux auditeurs, il y a cette émotion, mais vous gardez cette distance, et c'est ce qui fait la qualité de cet ouvrage. On arrive peu à peu au terme de cette émission, Emmanuel de Varesquiel. Évidemment, nous devons terminer par la mort de cette reine, et là encore, elle garde une dignité, mais absolument extraordinaire, et on ne s'imagine pas la temporalité. Tout à l'heure, vous avez dit que la sentence a été prononcée à 4 heures du matin. Oui. C'est-à-dire que pendant 3 jours, de très tôt le matin jusqu'à tard dans la nuit, elle n'avait quasiment aucun répit. C'est certes une femme de 38 ans.
Il y a deux coupures, le 14 et le 15 à 5 heures de l'après-midi. Mais par exemple, dans la nuit du 15 au 16 octobre, les débats, le délibéré des jurés, la conclusion du président Herman vont prendre une partie de la nuit et ne vont pas cesser pendant toute la nuit.
La délibération dure une heure, ce qui vous a semblé important finalement au regard des jeux
qui m'a semblé étonnant et paradoxal, dans la mesure même où les jurés étaient évidemment que choisis
à charge,
très très politiquement par Fouquier-Tinville et par le comité de sûreté générale, et que ils étaient sûrs, comme l'on disait à l'époque. Ils représentent d'ailleurs, ces jurés dont j'écris le portrait collectif, ils représentent et il symbolise la révolution parisienne, le jacobinisme et le sans-culottisme parisien, car tous ces 15 jurés appartiennent à la Commune de Paris, au comité de surveillance, aux sections parisiennes. Ils appartiennent aussi socialement à la petite bourgeoisie parisienne des métiers et des corporations. Et ils sont intéressants aussi d'un point de vue psychologique, car j'ai découvert des témoignages sur eux-mêmes, ont comparu, après la chute de Robespierre dont ils étaient proches, ont comparu devant le tribunal révolutionnaire. Certains ont été d'ailleurs guillotinés et devront se défendre. Donc ils ont eu des témoignages sur eux. Ils ont parlé de leur conscience comme jurés du tribunal révolutionnaire. Ils envoient quand même près de 2700 personnes à la guillotine, entre mars 1793 et 1795. Et donc ils sont intéressants parce que ils sont à la croisée de sentiments très contradictoires, des convictions de principe, des convictions révolutionnaires, surtout celle de l'égalité, mais aussi des sentiments qui relèvent plus de l'hommerie, si j'ose dire, la vengeance par rapport à ce dont ils sont persuadés, que cette femme représente la contre-révolution, la revanche sur le monde de la cour, le monde de l'ancien régime, le monde des ordres, la revanche de l'égalité sur ce monde-là, aussi probablement l'ambition. Voilà des personnages qui ne représentaient rien avant 89 et qui ont un pouvoir immense, qui du jour au lendemain, il y a cette espèce certainement de griserie du pouvoir qui leur saute au cou. Ils n'auraient pas pu imaginer entrevoir la reine avant 1789, et ils ont droit de vie ou de mort sur elle en octobre 1793. Vous imaginez cette distance abyssale qui pouvait exister entre ce qu'ils étaient avant la Révolution et ce que la Révolution a fait d'eux en termes de pouvoir à l'époque de la Terreur en 1793. Et puis parmi les sentiments qui les habitent, il y a certainement aussi celui de la peur, car tous, accusés et accusateurs, sont soumis, si j'ose dire, au signe du chef de la peur. Comme je l'ai dit, il existe une communauté tragique de destin entre tous ces protagonistes du procès de Marie-Antoinette. C'est le mot prêté à Vergniaud. Hein. La révolution est comme Saturne, elle finira par dévorer tous ses enfants. Et en effet, un certain nombre de juges, de jurés, de témoins vont subir, comme Marie-Antoinette, la mort très violente de l'échafaud et de la guillotine.
Vous citiez Furet tout à l'heure, François Furet. Est-ce que, sans faire d'anachronisme, on peut considérer que cette période de la Révolution, la période de la Terreur, vous avez parlé de peur, qui était précisément une des caractéristiques des régimes totalitaires, est-ce qu'on est dans un monde totalitaire ?
Non, d'abord, parler de totalitarisme, c'est faire des anachronismes en empruntant le mot au régime totalitaire du XXe siècle. Je ne le pense pas non plus, dans la mesure où je crois que ce qui se construit, cette république qui se met en place et tente de se construit dans le désordre. Et que le totalitarisme suppose non seulement la suprématie des idées abstraites sur l'organisation sociale, mais suppose aussi l'ordre qui n'a jamais existé. Je préférerais parler de guerre civile. S'il y a une tentation totalitaire au sein même de la révolution, et je dirais de la production théorique des révolutionnaires, elle relève de la culture et des idées culturelle. Elle relève de cette idée de régénération, d'invention d'un homme nouveau,
de nation aussi,
qui doit se séparer de ses anciennes lunes. Elle relève donc de ses actions de déchristianisation athéiste qui sont enlevées et emmenées par l'aile extrême de la révolution, qui est l'aile hébertiste en 93 et 94. Donc il y a peut-être du point de vue, je dirais, de l'imaginaire culturel révolutionnaire, une tentation totalitaire, mais je ne parlerai pas de totalitarisme dans le sens de l'organisation, de l'organisation des pouvoirs d'État au moment de la Révolution.
Un dernier mot peut-être sur Marie-Antoinette elle-même. Vous en faites, on sent une... Je parlais de l'émotion tout à l'heure. Est-ce qu'on peut parler d'une forme d'affection ? On sent tout à l'heure, on parlait du silence, la conciergerie. Vous êtes allé près de Saint-Lazare, à la chapelle expiatoire. Vous évoquiez au début de cette émission le fait que vous voulez vous rendre sur les endroits pour mieux les sentir.
J'ai parcouru à pied les 4 kilomètres qui séparent la conciergerie de la place de la Révolution, parcouru par la charrette, cette fameuse charrette qui roule depuis la nuit des temps, hein, qui était, je viens de relire récemment, Lancelot du Lac ou le chevalier de la charrette. C'est la charrette d'infamie, hein, c'est la charrette qui était utilisée à l'époque des grands procès de sorcellerie sous le Moyen-Âge, avec cette humiliation supplémentaire de faire asseoir les condamnés à mort dans le sens contraire de la marche des chevaux de la charrette. Marie-Antoinette s'en étonne, d'ailleurs, quand on l'a fait monter sur la charrette, elle se met...
Les mains attachées.
Les mains liées derrière le dos, elle se met dans le sens de la marche, et le fils de Samson, lui, la place dans le sens contraire de la marche. C'est comme ça que la dessine David, qui est quelque part accoudé à la croisée d'une fenêtre de la rue du Faubourg Saint-Honoré, que prend cette immense rue qui existe toujours et que parcourt la charrette. 300 000 personnes dans la rue, beaucoup d'injures et certainement, comme vous l'avez dit, une capacité... là encore, d'enfermement qu'a eu Marie-Antoinette jusqu'au dernier moment. Mais cette femme est touchante et peut-être émouvante par le fait même de cet enfermement. Enfermement mental dans un système qui est resté le sien, qui est le système monarchique, le système héréditaire. Enfermement aussi certainement des sentiments et de sa structure psychologique. Avec cette nouveauté, c'est que pour la première fois depuis 1789, depuis l'explosion révolutionnaire, elle ne cherche plus à s'enfuir. Elle fait face dans son enfermement à son destin et à la tragédie de son destin qui va la conduire à la mort.
Eh bien, merci beaucoup, Emmanuel de Varisquel. Je m'aperçois que je n'ai pas cité votre éditeur. Je vais me faire taper sur les doigts. Il s'agit des éditions Talendier. Jugez la reine, et je renvoie nos auditeurs également à votre œuvre, votre incontournable Talleyrand, et donc Fouché, qui fut directement à l'origine finalement de cet ouvrage. Cette émission n'aurait pas été rendue possible sans l'aide d'Isabelle, que je tiens à remercier. Je remercie aussi Georges à la technique et au montage, et vous bien sûr, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. N'hésitez pas à parler de nous autour de vous, et je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine. Merci et à très bientôt.